Disciples, mais pas tout seul, vous avez peut-être lu ce petit titre sur la fiche des différents thèmes de l'année. Et nous l'avons déjà un petit peu abordé aussi avec la prédication de Étienne, qui nous a rappelé que voilà, nous sommes une église aussi. Et il y avait un petit sous-titre en dessous de « Disciples, mais pas tout seul » que j'ai un petit peu modifié pour ce soir. Et j'ai appelé, sous-titré l'exposé de ce soir « L'Église, définition, mission, défi et encouragement ». Alors effectivement Jacqueline, je ne vais pas te donner un ami pour que tu ne sois pas tout seul, comme je l'ai entendu. Mais plutôt on va voir que c'est une réalité. Qu'on n'est déjà pas tout seul et que tu as même plus qu'un ami ou une amie, tu en as des centaines et des milliers. Dans le dessin animé intitulé « Le voyage du pèlerin » ou le livre d'ailleurs, ou le film pour ceux qui l'ont vu, au départ c'est un livre, hein, « Le voyage du pèlerin », le marcheur est bien souvent seul dans sa marche. Et il est vrai que le disciple peut se sentir seul dans sa marche, mais ce n'est pas parce qu'on se sent seul qu'on est pour autant le seul à marcher. S'il est vrai que personne ne peut être disciple à ma place, je ne suis pas pour autant seul à être disciple. Une de mes tantes a découvert la foi lorsqu'elle était étudiante dans la ville de Bordeaux, et elle a tout simplement eu l'occasion de lire la Bible. Alors je ne sais plus comment, dans les détails, elle s'était procurée cette Bible, mais elle a eu l'occasion de tomber sur une Bible et puis de la lire et d'être touchée chez elle, vraiment par l'Esprit de Dieu, et de prendre un engagement de suivre Jésus. Et à ce moment-là a commencé sa toute jeune relation avec le Seigneur en tant que chrétienne. Et elle pensait qu'elle était seule. Elle pensait qu'elle était la seule chrétienne, qu'elle avait entendu là tout d'un coup un appel de Dieu pour elle, et elle ignorait totalement que des centaines et des milliers de personnes pas très loin d'elle, en fait, étaient aussi disciples de Jésus. Et elle a été surprise de rencontrer, quelque temps après, sur le campus, les groupes bibliques universitaires, et elle a compris que, ah, effectivement, elle n'était pas la seule à avoir entendu l'appel de Jésus à le suivre. C'est d'ailleurs comme ça, pour la petite histoire, qu'elle a rencontré mon oncle, qui était chrétien depuis plus longue date. Dieu a prévu, et ça c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas forcément, je ne vais pas essayer de le démontrer, je pense que c'est assez clair, Dieu a prévu que le disciple vive au sein d'une famille spirituelle. Alors peut-être on pourrait trouver éventuellement des exceptions, comme par exemple quelqu'un qui se convertit dans une tribu très éloignée et puis il est le seul. Alors là, oui, d'accord. Mais de façon, j'ai envie de dire, générale, Dieu a vraiment voulu et prévu que le disciple vive au sein d'une famille spirituelle. L'Église est voulue par Jésus-Christ, justement, pour que ses disciples ne soient pas seuls. Et je pourrais presque m'arrêter là, puisque la réponse pour moi à la question « être disciple, mais pas tout seul », c'est l'Église. Ça tient en un seul mot. Pour moi, c'est ce que Dieu a prévu pour que le disciple ne soit pas seul. Alors, laissons de côté, c'est vrai que quand on dit l'Église, on pourrait penser à tout ce qui ne va pas aussi dans l'Église. On pourrait passer d'ailleurs une soirée à dire tout ce qui ne va pas, hein, de l'Église. Ce serait possible, on arriverait à, je pense que je pourrais aussi un peu. Mais je vous propose de laisser de côté les critiques. Les critiques sont faciles, mais pour voir justement aussi ce que la Bible dit de l'Église, et la Bible, vous le savez, a une haute, très haute estime de l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est le troupeau, comme on vient de le chanter, de Dieu. Et quelles sont aussi les raisons d'être de l'Église? Alors d'abord, c'est quoi l'Église? Alors c'est un mot, mais c'est aussi une réalité qui se cache derrière ce mot. Voyons le mot. Le mot « église » vient du grec « ecclésia ». Et donc « ecclésia »,« église », vous voyez, ça se ressemble. En fait, c'est un mot qu'on n'a pas traduit. Hein? On ne l'a pas du tout traduit, on ne voulait pas le traduire. Alors quand il y a écrit Ecclesia, on dit Église. Et puis alors pour savoir ce que c'est l'Église, il faut regarder à chaque fois que ce mot est utilisé, et puis différentes images, un petit peu quel est le sens. On l'a transcrit, on pourrait dire, ce mot en quelque sorte. Jésus emploie ce mot pour la première fois dans Matthieu 16, 18. Je vous lis simplement un petit peu le contexte. Je vais vous lire Matthieu 16, versets 15 à 19. Et c'est Jésus qui pose une question. Il dit « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. » Un passage qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il parle pour, c'est Jésus qui parle pour la première fois de l'Église avec cette parole « Je bâtirai mon Église, et puis tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Alors, en gros, il y a deux interprétations principales. Soit c'est sur à partir du personnage de Pierre que Dieu veut développer une communauté de disciples et ensuite l'Église. Ça, c'est une interprétation possible. Ou alors, comme Pierre vient de confesser et de confesser sa foi en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. » Eh bien, alors, c'est sur cette pierre, cette confession de foi, que je bâtirai mon Église. Parmi tous ceux qui pourront confesser cette foi-là, feront partie de l'Église. Je ne vais pas m'étendre forcément sur les différentes interprétations de ce passage. Certains croyants catholiques, alors pas tous, hein, je vous rassure quand même, pensent que la basilique Saint-Pierre à Rome est construite sur la tombe de l'apôtre Pierre. Donc une lecture encore beaucoup très très littérale. Tu es Pierre et c'est sur cette pierre, alors je bâtirai mon église et ce serait la basilique Saint-Pierre à Rome. Hein. J'ai lu même, alors ça fait des années, que des fouilles ont été faites sous la basilique et que des ossements ont été retrouvés. Mais probablement c'était un cimetière, en fait on en a retrouvé beaucoup. En tout cas, c'est impossible que Jésus veuille dire ça, puisque dans le Nouveau Testament, le terme « église » ne désigne jamais un lieu de culte, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, il y a plusieurs églises, et puis on utilise le mot « église » aussi pour parler tout simplement du bâtiment. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans une église, bon, au sous-sol d'une église, mais dans une église. Dans le Nouveau Testament, jamais le mot « église » ne désigne un lieu de culte. C'est beaucoup plus tard, hein, c'est plus 3e, 4e siècle qu'on commence à appeler certains lieux des églises. Ce mot « église », donc « ecclésia » en grec, est par contre utilisé aussi dans l'Ancien Testament. Vous savez que l'Ancien Testament, il a été traduit avant que Jésus vienne. Il a été traduit en grec. Et puis pour traduire le mot qui voulait dire le peuple ou l'assemblée, hein, les traducteurs ont utilisé ce mot, ecclésia, l'église. Ça voulait dire un rassemblement, une assemblée. C'est dans ce sens-là d'ailleurs que Étienne, dans son discours, parle de l'église qui était avec Moïse au désert. Alors voilà, c'est... L'Église, c'est une communauté, ça représente un ensemble de personnes, pas un bâtiment, une assemblée, un rassemblement de tous ceux qui croient, de tous ceux qui confessent leur foi. Qui sont les croyants ? Alors, il ne s'agit pas de croire n'importe quoi pour se déclarer croyant au sens biblique. Les croyants dans la Bible, en fait, sont ceux qui, comme Pierre, ont reconnu Jésus comme leur sauveur et seigneur. Bon, alors il ne le dit pas directement, Pierre, il ne dit pas « Tu es mon sauveur et mon seigneur » à cet endroit-là. Hein, ça, c'est plutôt Thomas qui le dira, hein, « Mon seigneur et mon Dieu ». Mais il dit quand même, Pierre reconnaît que Jésus est le Messie et qu'il est le Fils du Dieu vivant. Ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur et seigneur sont les croyants au sens biblique, et on va dire plutôt les disciples. Ils ont reçu le pardon de leurs péchés, l'Esprit Saint habite leur cœur et ils s'appliquent à vivre une vie à la suite de Jésus, une vie de disciple, une vie d'obéissance et d'apprentissage et de transformation de vie et de caractère. D'ailleurs, le nom Jésus, ça vient aussi de l'hébreu et ça veut dire tout simplement Dieu sauve. Donc rien que le fait de confesser Jésus, si on comprend qui est Jésus et quelle était sa mission de nous sauver, eh bien, on a tout dit. L'Église, c'est le peuple que Dieu a sauvé par Jésus-Christ. Et donc, l'Église n'est pas constituée de gens qui sont meilleurs que les autres. C'est tout simplement, comme on le dit souvent, des pécheurs qui sont pardonnés. La notion d'Église est intimement liée, en tout cas ça c'est mon avis, à la notion de salut. En tout cas dans nos églises de professants, hein, c'est-à-dire on fait partie de l'Église quand on affirme et qu'on témoigne publiquement de notre foi. Et c'est pas simplement un avis personnel, c'est aussi, il me semble, biblique, puisque dans le livre des Actes, on peut lire « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc le Seigneur ajoute ceux qui étaient sauvés, ceux qui sont sauvés à l'Église. Ce qui laisse penser que l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. Alors, celui qui croit dans le sens qu'on vient de préciser, eh bien, fait partie de l'Église. L'Église qui d'ailleurs n'a pas de frontières géographiques. Elle est, dans le sens premier du terme, elle est catholique, puisque ça veut dire universelle. Elle n'a pas de frontières géographiques, universelles, internationales, on pourrait dire mondiales, voilà. Parce que universelle, je ne sais pas s'il y a d'autres créatures dans l'univers. Mais bon, universelle, ça veut dire en fait sans frontières. L'Église n'a pas non plus de frontières temporelles. L'Église comprend tous les rachetés qui sont déjà recueillis auprès du Seigneur. Et des fois, on parle à cet égard-là de dimension diachronique de l'Église à travers tous les siècles. Dieu se constitue un peuple. Dieu ne sauve pas des personnes seules, mais il a le souci de les ajouter à l'Église. L'Église qui est aussi appelée la famille de Dieu ou encore le peuple de Dieu. On voit bien quand on appelle l'Église la famille de Dieu, les liens qui existent entre les personnes, ou le peuple de Dieu aussi. Ce n'est pas simplement des personnes qui sont sauvées et qui font leur cheminement de foi les uns séparément des autres. Dieu n'a pas voulu ça. La mission de l'Église. Alors l'Église a plusieurs raisons d'être. Et je vais en citer quelques-unes, peut-être il y en a d'autres encore. Louer Dieu, vivre la communion fraternelle, manifester l'amour de Dieu et sa compassion pour tous les êtres humains, annoncer la parole de Dieu, etc. Et en fait, toutes ces raisons d'être de l'Église sont des facettes de ce qu'on pourrait appeler la mission de l'Église. La mission de l'Église a plusieurs facettes, tout simplement, comme un dé. L'image n'est pas terrible. Comme un diamant, peut-être. Mais si l'Église a une mission, elle est aussi la mission de Dieu. L'Église est l'œuvre de Jésus-Christ. Je vous rappelle cette parole de Jésus. « Je bâtirai mon Église ». Donc, on a en tant qu'Église une mission que Jésus nous a laissée et qui est à multiples facettes. Mais, en même temps, il ne faut pas oublier que on n'est pas tout seul pour remplir la mission. En définitive, à travers nous, c'est Dieu qui agit. « Je bâtirai mon Église », a dit Jésus. Et donc si on s'inquiète pour l'Église, si on s'inquiète en se disant « Mais que va devenir l'Église dans le futur, etc. si on ne fait pas bien notre travail aujourd'hui, etc. » Cette question a une part... on peut se la poser, c'est pas non négligeable de se poser cette question, mais on peut être rassuré par le fait que c'est Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Donc il n'arrêtera pas tant qu'il n'a pas fini. Ça c'est une certitude, même si on ne fait rien. Et d'ailleurs, sans lui, on ne peut rien faire. Alors, est-ce que c'est une mission impossible? Vous connaissez les films intitulés « Mission impossible », je ne sais plus combien il y en a. Je pense 4 ou 5. Hein. Je ne sais pas qui les connaît. Bon, voilà. Alors, le héros, hein, qui est joué par Tom Cruise... Hein. Je crois depuis le début, hein, c'est lui qui a fait toute la série. Ils n'ont pas changé comme dans les James Bond ou comme ça. Eh bien, il reçoit, vous savez, une mission sous forme d'un message qui s'autodétruit quelques secondes après. Hein, vous connaissez le truc. Alors, à l'époque, c'était des petites cassettes qui fumaient tout d'un coup, une fois qu'il avait écouté le message, et puis après, c'est devenu plus moderne. Dans la Bible, on a la même chose. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on a aussi un message qui s'autodétruit, disons quasiment, puisque je vais vous lire le texte. C'est dans Actes chapitre 1. Les versets 8 et 9. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Vous avez vu la mission de Jésus, être témoin d'abord proche de Jérusalem et de plus en plus loin. Et puis ensuite, tout d'un coup, pouf, Jésus y part. Le message ne s'est pas autodétruit, mais vous avez compris l'image. La mission, elle est vaste, elle est grandiose, c'est être témoin jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre désignent probablement à ce moment-là la capitale de l'Empire romain, c'est-à-dire jusqu'à Rome, c'est-à-dire atteindre toutes les nations païennes environnantes entre la Palestine et Rome. C'est d'ailleurs pour cela que le livre des Actes se finit lorsque Paul est à Rome. La mission, au moins en partie, est atteinte. Et nous savons que dans cette mission, alors même si Jésus, effectivement, est monté au ciel juste après avoir donné cette mission d'être témoin jusqu'au bout du monde, l'Esprit de Jésus nous accompagne. Vous recevrez une puissance qui fera de vous des témoins. En fait, partout où vous irez. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous arriverons à mener à bien la mission que Jésus nous a confiée ? Serons-nous à la hauteur ? Il est bon de nous rappeler que Dieu nous aime malgré nos limites. Et d'ailleurs, un certain nombre de limites, Dieu les a voulues. Elles sont bonnes. Dieu a créé l'homme avec certaines limites. Hein, dans le jardin d'Éden, il a dit que cela était bon. Et un certain nombre de nos limites sont bonnes. Et peut-être, c'est cela aussi la complémentarité à vivre dans l'Église. Nous ne sommes pas seuls. Et il est bon de nous rappeler ces paroles, encore une fois, de Jésus. « Je bâtirai mon Église. » Toute la responsabilité ne repose pas sur nous. En définitive, c'est l'œuvre de Jésus. C'est la mission de Jésus à laquelle, en fait, il nous associe. Il est bon aussi de nous rappeler que Dieu nous aime malgré nos infidélités. Parce que quand on se pose la question « serons-nous à la hauteur ?», on peut penser à nos limites, mais on peut aussi penser à nos infidélités, à nos chutes, à nos désobéissances. Et vous savez, il y a un livre où c'est assez fort, cette image de la désobéissance. C'est dans le livre du prophète Osée, où Dieu se présente au peuple comme un mari trompé par sa femme, un mari trompé en tout cas dans le cas de Dieu à cause de l'infidélité du peuple. Et le texte parle même de prostitution, que le peuple se prostitue en adorant aussi d'autres dieux, en obéissant pas à la parole que Dieu a donnée. Et Dieu s'interroge dans Osée 11, il dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple? Est-ce que je vais le châtier? Qu'est-ce que je vais faire? Et un célèbre commentateur, John Stott, dit même qu'il y a dans ce passage, selon lui, un dialogue entre la justice, qui voudrait peut-être la punition du peuple, et la miséricorde de Dieu qui veut faire grâce. Et comme un dialogue, un combat au sein de l'être divin. Je cite simplement là John Stott. Et finalement, Dieu décide d'emmener son peuple au désert, de lui faire la cour pour reconquérir son cœur. C'est parce que le Seigneur nous aime d'un amour fort qu'il bâtit son Église et que la mission devient possible. Ce n'est pas parce qu'on va être toujours fidèle. En quoi consiste cette mission? Alors on en a déjà un peu parlé, être témoin. Être témoin, c'est être visible, que les personnes qui composent l'Église, c'est-à-dire nous, soient des témoins de Jésus-Christ. Si nous sommes disciples de Jésus et que nous ressemblons à Jésus, il n'y a rien à ajouter à ce témoignage. Si nous ressemblons à Jésus dans nos actes, dans notre pensée, dans nos paroles, il n'y a rien à ajouter. Franchement, moi, c'est pas une hypothèse que je fais, j'en suis vraiment persuadé. C'est cela. Être témoin de Jésus, c'est ressembler à Jésus. Si je ressemble à mon maître, eh bien, c'est bon. C'est ça que Dieu me demande. Il ne me demande pas plus. Mais c'est quand même beaucoup, hein, parce que ça implique quand même toute la dimension, notamment des actes. Jésus n'a pas que parlé, hein. On peut lire d'ailleurs dans Matthieu 5, et je ne vois pas le reprendre maintenant, vous connaissez ce texte où Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Alors récemment, je me suis même interrogé, je me suis dit « Mais à qui Jésus dit-il cela ?» Il ne peut quand même pas dire ça à toute la foule, hein, qu'il a en face de lui à ce moment-là dans le sermon sur la montagne. Probablement à ceux qui, justement, le suivent. « Vous êtes la lumière du monde ». Et que veut dire Jésus par cette affirmation ? Tout simplement, parce qu'il dira aussi dans d'autres textes, « Je suis la lumière du monde ». Donc vous voyez ce que Jésus est en train de dire là, ben, « Vous êtes la lumière du monde si vous me ressemblez. Hein, si vous vivez et que quelque part vous diffusez autour de vous ma lumière. Hein, une lampe, c'est quelque chose qui diffuse. Une lumière, c'est quelque chose qui se diffuse. » Une lanterne ne brille pas par elle-même. Elle a une flamme à l'intérieur qui brille. L'Église a été choisie, comme le peuple d'Israël, pour être le temple de Dieu, la maison de Dieu, le lieu finalement où la gloire de Dieu rayonne et va pouvoir être visible. J'avais un professeur de théologie à la faculté de Vaux-sur-Seine qui, lors du cours sur le sermon sur la montagne, nous a dit quelque chose. Il nous a dit... Vous êtes des VIP, des very important persons. Mais il l'a dit, il a même un peu provoqué, il a dit, vous êtes les personnes, et je pense qu'il avait raison, vous êtes les personnes les plus importantes de votre quartier. Alors on pourrait dire, oui, bien sûr, on est tous des VIP pour Dieu, tous les êtres humains sont des VIP pour Dieu, et c'est vrai. Mais... ce qui voulait dire, on est des personnes importantes parce que si on connaît Jésus et qu'on a cette lumière en nous, alors, eh bien, on a quelque chose à faire, on a quelque chose à être là où Dieu nous place pour que d'autres voient la lumière de Dieu. Il nous disait, vous êtes les personnes les plus importantes de votre quartier, pas par vos propres qualités, mais parce que vous connaissez Jésus-Christ. Et connaître Jésus, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Alors on peut se réjouir du privilège de connaître Jésus, et on le fait, mais c'est aussi une responsabilité, et il faut prendre la mesure de cette responsabilité vis-à-vis de nos prochains. Philippiens 2, versets 15 et 16 nous dit « Qu'au milieu d'une génération corrompue et perverse, les enfants de Dieu brillent comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Si nous essayons par nos propres forces de nous transformer à l'image de Jésus-Christ, c'est l'échec assuré. Dieu est à nos côtés, pas seulement à nos côtés. Il y a des textes qui disent qu'il est vraiment au plus profond de notre être, dans notre cœur, et qu'il travaille d'ailleurs ce cœur pour le rendre obéissant et à sa gloire. C'est Dieu c'est l'Esprit-Saint qui travaille notre cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, la mission devient possible. Dieu ne nous laisse pas seuls pour remplir la mission qu'il nous a confiée, et la première personne qu'il nous donne, c'est lui-même. L'Église, nous ne pouvons vivre l'Église qu'avec l'aide de l'Esprit-Saint. Lorsqu'on répond d'ailleurs à l'appel de Dieu et qu'on dit oui, on accepte la présence de Dieu à nos côtés pour nous aider, oui, pour nous soutenir, pour nous épauler. Mais on accepte aussi la présence de Dieu pour nous changer, pour nous diriger aussi. Et à partir du moment où on confie notre vie au Seigneur, c'est lui qui en devient le chef, en quelque sorte, le berger. Il dirige notre vie. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Il ne la dirige pas forcément toujours. Mais c'est vraiment ce qu'on souhaite, être derrière le bon berger. Et d'ailleurs, l'unité entre l'œuvre de Dieu et les actions et l'œuvre de l'Église est très très bien illustrée dans le Nouveau Testament. Il y a plein d'images qui parlent de cette unité entre Dieu lui-même et l'Église. Et c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. La première image peut-être qui nous vient, c'est que Jésus est la tête et l'Église le corps. Alors bon, là d'ailleurs je me rends compte que j'ai mis un Corinthiens 12 en parenthèse dans mon texte, c'est pas un Corinthiens 12 d'ailleurs. Moi je fais un petit commentaire. Alors si vous lisez un Corinthiens 12, vous remarquerez que la tête dans un Corinthiens 12, ce n'est pas Jésus. C'est un des membres de l'Église. Hein. La tête ne peut pas dire aux pieds, etc. C'est pas Jésus, hein, la tête, dans 1 Corinthiens 12. Par contre, l'image est utilisée dans d'autres textes par Paul, dans Éphésiens notamment, où là, très clairement, Paul a amélioré encore son image et il a placé au niveau de la tête Jésus. Donc, ouais, faudra regarder dans cet autre texte. Mais voyez, Jésus est la tête. Et l'Église, le corps. Vous voyez le lien très fort qu'il y a entre Dieu lui-même et son peuple. Et la tête, d'ailleurs, c'est ce qui donne des ordres au corps. C'est la tête qui va diriger le corps. Ce n'est pas aux pieds de décider où est-ce qu'ils veulent aller. C'est finalement c'est la tête qui décide pour ce que les pieds doivent faire, etc. Autre image. Jésus est la pierre angulaire d'un édifice. Et les autres pierres sont les croyants. Juste quelques versets que je vais lire dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Ce lien, encore une fois, extrêmement fort. Jésus est une pierre angulaire dans la construction qu'est l'Église dans laquelle nous sommes, en fait, des pierres vivantes. Alors l'image pierre vivante, ça c'est l'apôtre Pierre qui l'utilise. Autre image encore, on pourra en citer encore d'autres, mais je cite là maintenant la dernière que j'ai sélectionnée pour ce soir. Jésus-Christ est le cep et nous sommes les sarments. Ça c'est donc dans Jean 15. Hein. Toutes ces images ont pour but de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes ensemble unis à Jésus, que l'Église est unie à Jésus-Christ et que rien ne peut casser ce lien. Mais ces images soulignent également les relations entre frères et sœurs. Mais la relation que je voulais mettre en avant, c'était notre relation au Seigneur lui-même. Alors, maintenant, l'Église est aussi une aventure qu'on vit les uns avec les autres. Est-ce que vous avez déjà vu un troupeau de moutons derrière son berger ? Qui a déjà vu cela dans la nature, comme ça ? Voilà. Quelques personnes, hein. Eh bien, effectivement, les moutons sont parfois un petit peu dispersés, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais le berger, ou des fois un chien de berger, les rassemble, hein. Le berger donne de la voix, et puis les moutons se rassemblent. Des fois, il y a un chien qui aide un petit peu à faire peur aux brebis, là, pour qu'elles se rassemblent bien derrière le berger, et que le berger puisse les conduire à d'autres endroits selon la saison. Eh bien, l'Église est aussi appelée le troupeau de Dieu, hein, dans Jean 10, hein. Nous sommes les brebis et Jésus est le bon berger. L'unité de l'Église, hein, qui s'unit, hein, derrière le berger. Je trouve que c'est une belle image. Et c'est un don vraiment que Dieu nous fait. Nous ne sommes pas seuls. Une brebis n'est pas seule dans le troupeau. Alors c'est assez miraculeux quand même quand on réalise ce que ça veut dire, puisque ça veut dire que Dieu va réunir des personnes. Mais quel va être le lien entre ces personnes ? Par exemple, nous, ce soir, est-ce qu'on a des points communs qui nous rapprochent les uns des autres ? Est-ce qu'on a un hobby commun ? Je pense pas. On aime des choses différentes. On a des passe-temps, des passions différentes les uns des autres. Est-ce qu'on a un sport qui favorise tous ? On partage un sport ? Non. On a peut-être par contre un livre préféré, la Bible, mais ouais, la seule chose en fait qui nous unit, ça va être notre rencontre avec Jésus-Christ, et c'est en fait l'Esprit lui-même qui ajoute chaque jour ceux qui croient à l'Église, et c'est l'Esprit qui nous a ajoutés à l'Église. C'est l'œuvre de Jésus à la croix qui nous unit, l'œuvre de Jésus à la croix qui est de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Éphésiens 2, 13. Alors, on ne choisit pas nos frères et sœurs en Christ. Et c'est donc un défi de vivre ensemble. L'Église, c'est un endroit où on veut vraiment se préparer aussi à grandir dans l'amour, se préparer au royaume de Dieu qui s'est approché déjà en la personne de Jésus, mais qui se manifestera vraiment pleinement encore dans l'avenir. Dans l'Église, on progresse malgré et aussi par les conflits. Malgré les conflits et par les conflits, on peut grandir et apprendre. Par les épreuves, les difficultés diverses et variées, on apprend à vivre l'amour qui coûte, l'amour même, dans l'idéal, on aimerait apprendre à vivre vraiment l'amour inconditionnel de notre frère, de notre sœur, et l'amour inconditionnel de notre prochain. Et en fait, l'Église est là pour qu'on apprenne ça. Et donc, s'il y a quelqu'un qui nous énerve, eh bien, on peut vraiment bénir Dieu. Parce que vraiment, c'est le but. C'est d'apprendre à aimer de façon inconditionnelle, parce que Dieu lui-même nous aime, nous, de façon inconditionnelle. Et des fois, il faut d'ailleurs passer par toutes sortes de difficultés. Job, vous connaissez Job ? Il a tout perdu, mais à la fin, il a appris à s'attacher à Dieu de façon inconditionnelle. Et pour vraiment aimer Dieu de façon inconditionnelle, ben, il a dû aimer Dieu en ayant tout perdu. Et puis, je pense que cet amour inconditionnel que nous devons pour Dieu, quelque part, on doit le vivre aussi entre nous, apprendre à le vivre. Il y a un philosophe qui s'appelle, très connu, hein, qui s'appelait Sartre, et qui a dit « L'enfer, c'est les autres ». Vous avez déjà entendu hein, cette citation. Eh bien, la Bible dit au contraire que les autres sont des opportunités pour progresser dans notre vie spirituelle. Si j'ai une sœur pénible, bon, un frère aussi, hein, je pourrais dire, après je vais prendre un frère aussi comme exemple, si j'ai une sœur ou un frère pénible, ce sera pour moi l'occasion de développer la patience et la douceur. Parce que si je veux progresser dans la patience et la douceur et que ni ma patience ni ma douceur ne sont mises à l'épreuve, comment je vais progresser ? Jamais de la vie je progresserai. Je peux même éventuellement devenir encore moins bon si justement ma patience et ma douceur ne s'exercent pas. Un frère qui abuse de la solidarité, par exemple, sera pour moi l'occasion d'apprendre à connaître mes limites et à gagner en sagesse. Etc. On pourrait citer d'autres exemples et toute ressemblance avec une situation déjà vécue est purement fortuite. L'Église est encore bien imparfaite, incomplète, et l'Église est même quelquefois méprisée par le monde. Mais dans Éphésiens 5, on peut lire vraiment ce que Dieu dit de l'Église. Et qu'est-ce qu'il dit ? Le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Voilà le projet de Dieu, et voilà l'amour et l'estime que Dieu a pour l'Église. On est en chemin pour être rendus ensemble saints et sans défaut devant Dieu. C'est ce que le texte dit. Et c'est l'œuvre de Jésus. Et il le fait avec nous. Dieu a voulu que personne, aucun d'entre nous ne soit seul dans son chemin de foi. Et dans l'Église, c'est le cadre que Dieu a voulu, justement, pour partager ce que nous vivons avec le Seigneur, que ce soit ce que nous vivons tout court dans la vie, que ce soit des temps de joie ou des temps de difficulté. On est ensemble pour nous entraider, pour nous soutenir, pour nous serrer les coudes. Ce n'est pas un discours de politique que je fais là. Mais c'est ce que Dieu veut, qu'on vive vraiment dans l'Église. Partager nos joies, nos fardeaux, un certain nombre de cantiques qui le disent. Qui n'a jamais été encouragé par la parole d'une sœur ou d'un frère? Franchement, si c'est le cas, levez la main, il n'y a aucune honte. Qui n'a jamais été encouragé par la parole d'un frère ou d'une sœur? Personne. Par une attention particulière, par une prière, par un temps fort vécu pendant un culte. Et maintenant, on peut penser à quelque chose qu'on a vécu et qui nous a marqué dans notre cheminement de foi. Que me manquerait-il si je n'avais pas expérimenté cela? Dieu a voulu vraiment l'Église. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est une remarque qui est proche de ma conclusion, aujourd'hui, de nombreux chrétiens ont quitté les églises parce qu'ils en ont été déçus d'une façon ou d'une autre. Le CNEF, pour ne citer que le CNEF, estime qu'il y ait plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont pris une décision pour Jésus-Christ, qui ont fréquenté un temps des églises, une église évangélique, et parce que ça c'est dans le cadre du CNEF, c'est pour ça que je dis donc une église évangélique, et qui ne fréquentent plus d'église, plus aucune église, parce qu'ils ont été déçus d'une façon ou d'une autre. C'est un phénomène aujourd'hui très important. Alors, oui, on peut être déçu de l'Église, c'est clair. Mais ces personnes-là, alors je ne m'adresse pas à vous puisqu'elles ne sont pas là, ces personnes. Mais c'est une réflexion que je me fais. Ces personnes-là ont-elles compris aussi qu'elles ne sont pas non plus parfaites? Que si l'Église n'est pas parfaite, elles non plus, ces personnes-là, parce qu'on en connaît peut-être, ne sont pas parfaites non plus. Et je m'interroge vraiment, comment ces personnes pourront progresser dans l'amour fraternel si elles n'ont pas de communion fraternelle dans une église? Comment progresser dans l'amour fraternel? Comment lire un certain nombre de textes et d'exhortations qui présupposent une vie d'église? Pas possible. On est en dehors du cadre que Dieu a voulu. Comment pourront-ils, ces personnes, accepter que d'autres puissent penser différemment si elles s'isolent pour vivre leur foi? On a besoin de l'apprendre, ça aussi, que d'autres peuvent penser différemment, avec la même foi en plus. Dans l'Église, nous sommes ensemble aussi pour nous reprendre les uns les autres dans l'amour. Verset de conclusion. Éphésiens 4, 10, c'est Paul qui dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Tout simplement, tâchons de mettre cela en pratique. Merci de votre attention.